Madame la représentante spéciale, bonjour.
Bonjour.
Merci une fois encore de votre disponibilité. Mais commençons par la crise sanitaire. L'évolution du coronavirus en RDC 6 mois après n'est pas si catastrophique. Sur plus de 9500 cas confirmés jusque le week-end, le tableau donne près de 90% de guérisons et moins de 3% de décès. Et depuis un peu plus de 3 semaines maintenant, le pays a progressivement retrouvé une vie normale avec la levée de l'état d'urgence. Quel est votre regard face à ce tableau?
D'abord, bien évidemment, nous nous réjouissons que les scénarios catastrophiques ne sont pas arrivés, pas seulement ici, mais dans toute l'Afrique. Maintenant, il faut quand même ne pas perdre de vue que nous devons rester vigilants, que nous devons faire attention, que nous devons respecter les règles que le gouvernement nous dicte, et surtout pour éviter que le virus se balade sans qu'on se rende compte, parce qu'il est là.
Madame, si on peut changer de sujet, la semaine dernière, le monde a célébré la Journée internationale de la jeunesse, c'est le 12 août. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise?
D'abord, je dis joyeuse fête, malgré toutes les difficultés. Les jeunes ont l'avenir devant eux. Les jeunes sont l'avenir de chaque nation. Et une nation qui ne s'inscrit pas dans la réalisation des rêves, des objectifs de sa jeunesse ne peut pas avoir d'avenir. Parce que l'avenir, c'est pas nous. Nous, notre jeunesse est derrière nous. L'avenir, c'est eux. Quand je dis eux, c'est aussi elles. C'est-à-dire les femmes et les hommes du futur, cette jeunesse, cette population qui est à 65%, si on ne lui donne pas l'espoir, c'est notre échec. Mais je dis aux jeunes Congolais, puisque j'ai la chance de parler sur Radio Okapi qui est bien écoutée, je dis aux jeunes Congolais, vous avez tout pour vous et vous pouvez aider, vous pouvez construire, vous pouvez changer les dynamiques. Parce que la jeunesse, elle peut aussi être porteuse d'un projet de société qui va construire l'avenir. La jeunesse peut changer les mauvaises habitudes, elle peut créer une nouvelle dynamique, elle peut forcer la classe politique, la classe des investisseurs, la classe des entrepreneurs. Elle peut changer. Il faut l'aider. Bien sûr, elle ne peut pas le faire par elle-même sans qu'il y ait une volonté politique. Changer et ouvrir la porte à l'éducation à tous les jeunes, leur permettre d'accéder à travers le savoir, la formation, l'effort, et pas à travers le népotisme et la corruption et tout ça, mais à travers l'effort, à travers le mérite, à travers l'éducation, pour devenir les leaders de demain, pour devenir ceux qui vont diriger l'armée congolaise, ceux qui vont diriger la police congolaise, ceux qui vont être les leaders des partis politiques, ceux qui vont bien évidemment être les investisseurs de demain en RDC.
Un autre sujet, madame. Les institutions congolaises semblent déterminées à mener un combat acharné contre la corruption. On le voit notamment à travers différentes interpellations amorcées par la justice. Pensez-vous que la corruption qui gangrène ce pays depuis des décennies est l'un des facteurs qui bloque son développement et sa stabilisation, la stabilisation qui est même la raison d'être de la MONUSCO? Quel regard jetez-vous sur ce combat que mènent actuellement les autorités congolaises?
Vous savez, l'impunité, c'est le drame. L'impunité, c'est vraiment le foyer, c'est le marécage où toutes les forces négatives se renforcent et tuent l'État. C'est pas que les Congolais sont corrompus plus que les autres peuples, absolument pas. Mais si l'impunité est généralisée, s'il n'y a pas d'institutions qui font en sorte que vous pouvez pas toucher à l'argent de l'État et vous pavaner dans l'impunité, en plus vous allez être récompensé, si vous n'avez pas ces institutions-là, et donc l'exemplarité de la peine est importante. Arrêter des gens qui ont commis des crimes graves contre l'économie de l'État, contre les institutions, c'est une excellente chose, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi travailler sur le comment renforcer les mécanismes qui vous permettent d'empêcher le mal de se répandre. Le comment on arrive à s'emparer des richesses de l'État sans que quelqu'un vous arrête au premier geste. Parce que gouverner, c'est d'abord prévoir. C'est avoir des mécanismes qui vous permettent d'empêcher le mal de se répandre. Une fois qu'il se répand dans le corps, c'est très difficile. Lorsque vous avez un cancer, si vous le prenez au départ et vous soignez la cellule malade, vous allez guérir. Si vous le laissez se répandre dans tout le corps et vous avez une métastase, il n'y a aucun doute que vous allez mourir. Donc c'est exactement la même chose. C'est bien de commencer à envoyer le message, l'impunité est finie. Vous ne pouvez pas voler l'État, vous ne pouvez pas détruire, vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos de la majorité de la population qui crève, qui ne reçoit pas le minimum. C'est fini, l'État va prendre des mesures. Mais À côté de ça, nous devons travailler pour empêcher ce genre de pratique de se répandre dans les institutions de l'État. Un État, c'est quoi? Un État, c'est 4 fonctions régaliennes. C'est quoi les 4? C'est une armée professionnelle qui protège les frontières, qui maintient la stabilité. 2, c'est une police qui maintient l'ordre sans violer les droits des citoyens. 3, c'est une administration de la justice qui fonctionne, une administration de la justice qui rétablit les droits, qui sanctionne ceux qui commettent des violations. 4, c'est une administration qui est aussi au niveau local, au niveau national, qui organise le fonctionnement de l'État, qui veille au respect, au contrôle de ses frontières, contrôle de ses richesses, qui aussi veille à la collecte de l'impôt pour permettre à l'État d'avoir des ressources et de mettre en œuvre les programmes. Mais ces fonctions-là, il faut les construire. Et c'est comme ça qu'on construit la lutte contre l'impunité, l'État de droit, et veiller à ce que la justice soit indépendante. Si on pille l'État et on n'est pas sanctionné, on n'a pas de justice. Si le militaire qui est censé aller protéger la population devient un prédateur, il n'y a pas d'État.
Madame la représentante spéciale, je vous dis merci.
Merci beaucoup.